Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs, bienvenue pour cette nouvelle chronique. Jeudi 8 février, c'était un peu la fête à Étré chez notre ami Michel Brocard de la Ligue des droits de l'homme. Il y avait là notamment, parmi les nombreux présents, des agriculteurs brésiliens, un responsable du centre d'insémination de Césaria, spécialisé dans la Montbéliarde. Tous étaient là pour célébrer une belle histoire entre Brésil et France, initiée au début des années 2000 par Michel Brocard, histoire qui perdure encore aujourd'hui.
Bonjour, une fois n'est pas coutume, on est là aujourd'hui pour raconter une belle histoire, une histoire de droits de l'homme qui se passe entre le Brésil et la France. Bonjour Michel.
Bonjour.
Et donc qui se poursuit avec des Brésiliens et d'autres personnes qui vont se présenter. Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez ?
Meu nome é Éder Toqueto, sou agricultor lá de Ceará, no Brasil.
Il est agriculteur à Ceará, dans le sud du Brésil. Moi, je suis Stéphane Fitaman, je traduis tout le portugais de ces Brésiliens. Je travaille pour une coopérative française dans la Montbéliarde.
On va y venir. Et vous êtes ?
Bonjour, Rodrigo Praes, agriculteur familial du municipio de Rio do Campo, Santa Catarina, Brasil.
Voilà, agriculteur Santa Catarina, dans le sud du Brésil aussi.
Michel, je m'adresse à vous. Alors, on va parler d'une histoire qui a commencé en 2001. C'est cela ?
Oui, ça a commencé en 2001. En fait, j'assistais au Forum social mondial à Porto Alegre en 2001, où j'ai rencontré là des leaders de... des paysans sans terre, appelés sur le mouvement des MST au Brésil, qui étaient un peu désemparés sur la remise en culture de terres qui ne leur appartenaient pas, en fait, et qu'il fallait tout reconstruire dans une perspective qui soit autre chose que l'agriculture productiviste. Donc, quand j'ai saisi cette demande et cet objectif, j'ai été un peu séduit du fait qu'on voulait, au Brésil, qui est réputé pour nous encombrer de leur production polluée, c'est pas ça du tout. Là, c'est la reconstruction d'un nouveau Brésil, d'agriculture familiale, très proche des hommes, et surtout solidaire entre eux, coopératif. Ça s'appelait le mouvement des paysans sans terre. Voilà. Mais la solidarité, les actes de solidarité ont commencé en 2002, quand Lula est arrivé, avec son programme Fin Zéro. Mais tout de suite, je n'ai pas pu aborder la question des paysans sans terre tout de suite. J'ai attendu l'année suivante, 2003, pour contacter les premiers responsables des paysans sans terre qui voulaient avoir un programme de rémunération, au moins, active, parce que à cette époque-là, je crois que c'est encore le cas maintenant, les éleveurs, enfin les paysans sans terre qui se retrouvaient à réorganiser leur production et leur exploitation étaient complètement dépourvus de moyens et pas d'idées.
Donc vous aviez les idées et vous pensiez à l'élevage, vous, Michel ?
Je pensais à une chose, c'est pouvoir... être solidaires pour recréer des structures qui leur permettent de vivre dignement et correctement. Et quand je me suis aperçu un an plus tard que j'avais affaire à des éleveurs qui avaient des troupeaux absolument désorganisés et très pauvres génétiquement parlant, avec des femelles zébues qui faisaient un litre et demi de lait par jour, je me suis dit que si on apportait, le bienfait d'une race plus productive et entre parenthèses la race montbéliarde, dont j'étais à peu près sûr du résultat puisque j'avais assez travaillé avec, les premières inséminations de taureaux montbéliards sélectionnés provenant de Césaria, du Beau-Test, dans l'Ain, les premières inséminations ont donné des filles qui ont produit tout de suite 15 à 20 litres de lait à la première naissance. Donc, quand de passer d'un litre et demi de lait à 20 litres, il n'y a pas eu besoin de faire beaucoup de publicité pour que la race montbéliarde se propage au Brésil.
Donc, vous avez fait une hybridation, mais ça ne s'est pas passé facilement. Comment ça s'est passé, en fait ?
Oui, ben ça, là, il y a plusieurs étapes. Ça serait un peu long de pouvoir tout traiter ici. Il y a plusieurs étapes. Ma première étape, ça a été d'abord de me concentrer sur les favelas qui comportaient un monde de jeunesse absolument, comment dire, je veux pas dire désœuvré, c'est pas le terme, mais qui crevait la dalle en quelque sorte, quoi, qui crevait de faim. Et les favelas qui étaient un peu... Bon, tout le monde s'en rappelle, les favelas de l'avant Lula, c'était des favelas...
Donc vous êtes concentré
en quelque sorte, quoi. Et la première année, j'ai réussi à réunir des groupes de jeunes qui ont construit des jardins communautaires et ça a très très bien marché. L'année après, ils vendaient leurs légumes et leurs fruits sur les marchés de Santa Maria et de Porto Alegre. Donc ça a été un premier succès, mais c'est justement cette deuxième année que j'ai rencontré d'une façon active les paysans sans terre pour eux sortir aussi d'une agriculture très productiviste qu'on appelait les faciendas à une agriculture familiale, intelligente, durable et surtout vivifiante pour eux-mêmes.
Vous alliez chercher la semence, comment ça se passait ?
Il a fallu faire une approche, parce que ça n'a pas été facile à la première de faire une exportation de semences montbéliardes dans des groupes, à des groupes constitués. Il fallait déjà constituer des groupes, c'est-à-dire des associations qui répondent à la question. Et ça a été mon grand travail les trois premières années, c'est de former des groupes cohérents, des coopératives en quelque sorte, ou des coopératives d'utilisation de matériel agricole aussi. Mais des coopératives qui répondent à cette exigence, qui soient capables de commander et de mettre en place. Voilà.
Et là, vous avez trouvé des relais sur place.
Et là est intervenu le centre d'assimilation de Césaria, à côté de là, quoi, qui s'appelait Humotest, avec un homme qui a pris en main et qui a cru au départ. Pourtant, ce n'était pas facile à croire, parce que c'était quand même très disséminé. Il s'appelle Stéphane Fitamon, il est là, et je pense que c'est lui qui va prendre la suite de mon exposé.
D'accord, voilà. C'était à cette époque-là, c'est-à-dire sous Lula, que vous avez, Stéphane Fitamon, que vous avez commencé donc à vous en occuper.
Moi, je suis arrivé au Brésil en 2001. Première action coopérative et solidaire avec les paysans sans terre, c'était 2002-2003. Et Stéphane Fitamon, le responsable de la mise en place de la génétique montbéliarde dans les coopératives qu'on a montées, qu'on a essayé de monter, c'était en 2005 que ça a commencé, quoi. Et il a cru, et Dieu sait si on lui doit la fière chandelle de la suite.
Donc la suite, c'est-à-dire que les paysans sans terre ont trouvé aussi de la terre grâce à Lula à l'époque.
Lula, il a fait la troisième année de son premier mandat. Il a considéré que les gens qui exploitaient leurs terres en étaient devenus propriétaires.
Voilà, c'est ça.
Donc c'est ce qui a mis les propriétaires des faciendas et les partisans de Bolsonaro en fureur, effectivement, quoi. Mais ça reste comme ça. C'est acquis. Les paysans sans terre qui cultivent actuellement sur des exploitations de 10-20 hectares et qui s'entraident entre eux, ils sont propriétaires de leurs terres, justement, par un décret de Lula.
D'accord.
2005, je crois.
2005. Bonjour Stéphane Fitamon, rebonjour. Donc alors vous avez pris le relais de Michel ?
On va plutôt dire on a travaillé ensemble. Je l'ai accompagné. Michel m'a invité au Brésil. Donc dès le départ, moi je m'occupe de l'exportation, donc de la promotion de la race montbéliarde dans beaucoup de pays. Et donc je voyage beaucoup. Il m'a proposé d'y aller. J'ai dit je vais avec toi, banco. Je veux découvrir ces éleveurs dans le sud du Brésil. Et c'est Michel qui a été le principal moteur pour nous tous et même pour eux là-bas. Donc ça a été une expérience très intéressante parce que rapidement on a vu que leurs exploitations étaient familiales, un peu comme les nôtres ici en France, avec des élevages parfois même plus petits, ça peut être 20, 25, 30, 35 hectares, mais familial. Voilà. Et donc des éleveurs qui ont besoin de produire leur fourrage, qui ont besoin de produire, qui produisent du lait. Au niveau génétique, c'était, comme Michel l'a dit, désorganisé. pas de conseils, pas d'objectif, et alors qu'il en faut. Et bah rapidement c'est Michel hein, qui a vu que bah ouais, une race qui collerait très bien avec leur climat, avec leur leur structure, c'est la race Montbéliarde. Et donc bah on a organisé, on a fait en sorte d'organiser l'envoi d'ici de Césaria de semences Montbéliarde, de très bons taureaux Montbéliard, pour organiser pour envoi au Brésil via Sao Paulo. Et donc c'est toute une logistique hein, qui n'est pas simple parce que c'est une matière, la semence est gardée dans des bonbottes, oui. Bonbonnes d'azote liquide à moins 200 degrés, donc il y a une logistique derrière tout ça, mais on est habitué à ça. On va dire que
beaucoup de technicité en fait.
Ah oui, il y a beaucoup de technicité, ouais. Non seulement pour la conservation de la semence, ouais. On la domine, hein, et puis on a trouvé des interlocuteurs là-bas qui la dominaient aussi. Mais voilà, la partie importante, c'était la génétique. C'était de pouvoir montrer que là-bas aussi, les éleveurs, en utilisant une génétique même française, pourtant on est à 7000 km de distance, et ben, c'était une génétique adaptée à leur ferme.
Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, donc, Bolsonaro est passé, mais ça perdure.
Oui, oui, parce que ces élevages continuent, ces éleveurs continuent, et il faut dire que la génétique, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est, on fait de la génétique aujourd'hui pour dans 6 ans, 7 ans, 8 ans. Donc, on travaille à très long terme, les éleveurs aussi, ils font confiance au départ, les résultats ne sont pas là tout de suite.
Ça dépasse les échéances, même si c'est des échéances politiques.
Exactement, on est au-delà des échéances politiques, on est bien au-delà, et comme Michel l'a dit, ces éleveurs ont pu voir au bout de 3 ans, 4 ans, 5 ans, des résultats bah, auxquels il ne pensait pas. Quoi. C'est des résultats bien meilleurs. Et puis, comme un éleveur le disait, là, on a la chance que la race Montbéliarde imprime sa génétique. Elle est très dominante. Dès lors qu'elle est utilisée sur des races locales, on voit très rapidement le résultat. C'est le fruit de toute la sélection qui a été faite en race Montbéliarde depuis 130 ans. Quoi.
Donc aujourd'hui, c'est un peu la fête parce qu'il y a ces éleveurs brésiliens qui sont avec nous et qui font perdurer donc, la race Montbéliarde donc en territoire brésilien. Si on leur parlait, si vous les représentiez maintenant.
Voilà, exactement. En fait, ils représentent a ideia da raça Montbéliarde là, com as associações, com os resultados falam para a raça. É um pouco por isso, não? É um pouco por a razão porque o grupo vem aqui em França.
É, a questão da raça Montbéliarde no Brasil, ela vem para fortalecer a agricultura familiar, dar mais sustentabilidade.
Voilà, la race Montbéliarde est vraiment là pour donner de la durabilité aux élevages familiaux locaux.
A nossa produção de leite é basicamente produção de leite à base de pastagem, pasto,
c'est
né?
Du pâturage principalement.
E as raças que nós estamos trabalhando no Brasil hoje são raças que temos muita dificuldade de trabalhar no sistema de pastagem, também animais que têm muitos, apresentam muito problema de sanidade.
Voilà, nous, les races qu'on connaissait ne sont pas forcément, qui sont souvent des races nord-américaines, ne sont pas adaptées au pâturage et donc elles ont des problèmes de santé.
Et est-ce que les pâturages sont un petit peu semblables à ceux que l'on connaît chez nous?
A pastagem de lá parece um pouco pastagem de aqui? Nas montagnes?
Não, as nossas pastagens existem outras pastagens, porque nós não temos a neve lá, né? Então, são pastagens perenes também, de verão, e também tem pastagens implantadas no inverno, né? As Evens, enfim.
Donc, ils ont un climat un peu plus clément qu'ici. Ils ont de l'air pratiquement toute l'année. Il y a des périodes sèches, mais c'est un pâturage un peu plus difficile, mais qui est plus long durant l'année. Ils ont un climat un petit peu plus chaud.
Un petit peu plus chaud.
Voilà.
Là, c'était qui on interviewait?
Rodrigo Price, qui est un éleveur du sud de Santa Catarina, qui est un peu le leader aujourd'hui.
D'accord. Leader de l'agriculture là-bas, Santa Catarina.
Et voilà, vous êtes leaders na zona para desarrollar uma política assim familiar, agropecuária, mas também a raça como alternativa.
Com certeza, né? É uma alternativa para nós. O nosso modelo, o modelo que vocês têm na França de cooperativa, de associação, de sindicato, o Éder pode comentar um pouco melhor sobre a principal, as organizações que vocês vão nos, estão nos ajudando muito, mas a questão da genética também é uma questão que está, com certeza, ajudando bastante.
O modelo que nós temos aqui em França é un modèle qui ressemble beaucoup à celui que nous avons, et c'est ça, ça nous intéresse. Et en plus, la race propose des qualités qui nous vont très bien.
D'accord. Et si on présentait votre camarade maintenant ?
Alors, à ta présentation, de nouveau.
Donc, je suis Éder, agriculteur familial et directeur de la Fédération des travailleurs de l'agriculture familiale là du Estado de Santa Catarina, qui est une fédération d'un des États du Brésil.
Voilà, je suis directeur d'une fédération des éleveurs de Santa Catarina, une des fédérations principales de l'État de Santa Catarina.
J'ai entendu familial, non ?
Oui, familial, ouais,
c'est
exactement.
Important le mot familial.
Est importante la palabra familial. Familiar.
Oui, oui. Pourquoi ? Pourquoi ?
Oui.
A verdade é um modo de vida, a agricultura hoje no Brasil, em torno de 70% é de agricultura familiar. Então são as famílias que produzem lá na propriedade.
70% des élevages au Brésil sont des élevages familiaux, même s'ils représentent moins sur la quantité totale, mais c'est une façon de produire, c'est un style de vie qui est très présent au Brésil.
Est-ce qu'on peut parler de dimension humaine ?
É uma dimensão humana. Uma dimensão da persona, uma dimensão boa, familiar, como...
Sim. Né? Na verdade, o contexto familiar, ele leva em consideração isso, a família mesmo, né? Então, a parte humana de tu produzir um alimento que é saudável, que vai para a mesa do povo brasileiro e também do mundo todo, né? Como um país que exporta muito.
Exactement, c'est vraiment une production humaine qui vient du travail d'une famille pour nourrir notre population, mais aussi pour l'exportation s'il y a lieu.
Avec une solidarité coopérative fondamentale, ils travaillent en commun, ils travaillent en coopération. Tous les ex-paysans sans terre, c'est ça, tous ceux qui en suivent, c'est un autre type de vie que de l'agriculture productiviste, c'est de l'agriculture humaine.
En tout cas, merci pour cette journée coopérative entre la France et le Brésil.
Nós que agradecemos, né, por estar aqui, por conseguir.
C'est nous qui vous remercions.
Conviver, aprender pour, un peu também com a agricultura francesa, né, aprender
vivre un peu la culture française. On a très apprécié.
Et merci Michel pour avoir été au départ de cette aventure.
Oui, mais enfin bref. C'était à la fois ma foi et ma passion.
C'est le mot de la fin.
Eh bien, amis auditeurs, je vous dis maintenant à bientôt et rendez-vous pour une prochaine...